Vous écoutez On lit pour vous.
Comment dois-je expliquer l'incohérence énergétique à mes élèves? Un témoignage de David Rousseau, paru le 8 juillet 2026 dans la presse. Le professeur de sciences et technologies au secondaire David Rousseau se trouvera dans une étrange position à la rentrée, celle de devoir expliquer l'investissement public dans un pipeline. Voici son témoignage. Chaque année, le gouvernement québécois, mon employeur, me donne le mandat d'expliquer les bases et les rouages des changements climatiques aux adolescents. J'enseigne les sciences au secondaire depuis 18 ans. Avec mes collègues enseignants, nous y passons plusieurs semaines, car nous jugeons essentiel de creuser le sujet en profondeur. Nous analysons rigoureusement les causes scientifiques, économiques et sociales ainsi que les conséquences globales de la crise actuelle. Notre objectif ultime est de pousser les élèves à utiliser la méthode et la rigueur scientifique pour guider leurs décisions futures en tant que citoyens. Au terme de cette séquence, nous leur proposons une simulation du Bureau d'audience publique sur l'environnement, BAP, concernant un projet d'énergie fossile. Pour ces jeunes de 15 ou 16 ans, le constat est toujours d'une logique implacable, presque mathématique. Le développement de nouvelles infrastructures pétrolières ou gazières est un non-sens scientifique, fondamentalement incompatible avec le maintien de conditions de vie viables sur Terre. Puis, hors des murs de l'école, arrive le choc brutal de la réalité politique. Avec l'annonce récente de Mark Carney de l'appui au développement de nouvelles oléoducs d'envergure, un projet qui sera financé par l'argent public, par vous, par moi, je me retrouve aujourd'hui devant un mur idéologique. Malaise à la rentrée. Qu'est-ce que je suis censé raconter à ces enfants à la rentrée de septembre 2026? Comment leur expliquer, sans cynisme, que la société qui leur demande d'étudier la science sur les bancs d'école choisit délibérément de l'ignorer dès qu'il s'agit de grands capitaux? C'est le sentiment profond d'un abandon générationnel. Comment, dès lors, trouver les arguments moraux pour motiver ces jeunes à transformer radicalement leur mode de vie? Comment leur demander de faire des sacrifices personnels, manger moins de viande, composter, délaisser la voiture solo ou restreindre leur voyage, quand les décisions macroéconomiques de nos dirigeants rament à contre-courant? Nous en sommes rendus à culpabiliser le citoyen en lui demandant de limiter ses requêtes d'intelligence artificielle parce qu'elles sont trop énergivores pendant que l'État subventionne à coups de milliards les énergies du passé. Honnêtement, je vis un immense malaise professionnel et citoyen, car pour ajouter à l'insulte, j'ai voté pour cette vision aux dernières élections. J'ai voté pour Mark Carney, un homme qui avait pourtant prouvé par le passé qu'il comprenait les risques financiers liés au climat. J'ai voté pour un parti qui affichait un programme de transition écologique jugé crédible, mené par un ministre de l'Environnement qui martèle l'objectif mondial d'un bilan carbone net zéro d'ici 2050. Aujourd'hui, je me sens floué, berné et profondément trahi par cette réalité. Devant mes élèves, je serai sans mots. Je retourne donc tenter de profiter de mes vacances d'été, mais le cynisme et l'éco-anxiété de la prochaine génération, eux, ne prennent pas de vacances. C'était « Comment dois-je expliquer l'incohérence énergétique à mes élèves? » Un témoignage de David Rousseau, paru le 8 juillet 2026 dans la presse.
Disparition de la scène noire, avantageux ou pas pour le consommateur? Un texte de Lila Dussault paru le 18 juillet 2026 dans la presse. Un lecteur, Stéphane Giguère de Saint-Augustin, demande « On voit passer sur nos factures des montants arrondis. » C'est OK, On nous avait avisé lorsque la Seine noire a cessé d'être produite. Je m'en demandais, le fait que le commerçant arrondit, est-ce avantageux pour lui ou pour le consommateur? Avez-vous des chiffres ou des statistiques canadiens ou des constats? En 2012, le gouvernement de Stephen Harper annonce la fin du sous-noir. Le Canada emprunte la même voie que d'autres nations comme la Nouvelle-Zélande, 1990, l'Australie, 1992, la Finlande, 2000, les Pays-Bas, 2004, notamment. L'Irlande, 2015, et la Belgique, 2019, se sont également ajoutés au groupe par la suite. Plus récemment, la question de cette petite monnaie est revenue au premier plan avec la fin de la production aux États-Unis en novembre 2025. L'absence des pièces de 1 cent affecte les consommateurs lors des paiements en espèces, mais ne touche pas les autres types de paiements par carte de crédit, virement bancaire, chèque, etc. Les lignes directrices du gouvernement fédéral sont les suivantes. Arrondir le montant total de la facture, taxes comprises, au multiple de 5 sous le plus proche. L'État propose donc d'arrondir à la baisse les montants se terminant par 1, 2, 6 et 7 et d'arrondir à la hausse les montants se terminant par 3, 4, 8 et 9. Par exemple, un montant de 2,87 $ deviendrait 2,85 $, tandis qu'un montant de 2,88 $ deviendrait 2,90 $. Bien qu'en théorie, les arrondissements à la hausse et ceux à la baisse devraient s'annuler, la réalité est différente selon diverses recherches. En 2018, la chercheuse Christina Chung de l'Université de la Colombie-Britannique a mesuré l'impact économique de ces transactions dans un article publié dans l'Atlantic Economic Journal. En évaluant l'achat de produits d'épicerie dans 6 provinces canadiennes différentes, elle a conclu qu'arrondir profite financièrement aux entreprises au détriment des clients. La pratique entraîne un transfert net d'environ 3,27 millions des consommateurs vers les détaillants en alimentation chaque année, selon son analyse. Ce montant représentait alors en moyenne un revenu supplémentaire de 157 $ par an pour un commerce type. Plus récemment, aux États-Unis, des économistes de la Réserve fédérale de Richmond en Virginie ont estimé qu'arrondir la somme coûterait chaque année aux consommateurs environ 6 millions US, 8,5 millions canadiens. Pour arriver à ce résultat, ils ont analysé les données de 2023 provenant du Diary of Consumer Payment Choice, DCPC, un document publié une fois l'an par la Réserve fédérale américaine. Cette année-là, le DCPC a inclus 24 728 transactions faites par 4 671 adultes. Parmi celles-ci, 3 559 transactions ont été payées en espèces. Les chercheurs ont réalisé que les montants avaient plus de chances de se terminer par 3, 4, 8 ou 9 que par d'autres chiffres. Conclusion, arrondir se traduit plus souvent par un coût pour les consommateurs qu'ils qualifient de taxe d'arrondissement. Cependant, l'augmentation continue des paiements électroniques devrait mitiger les coûts pour le consommateur, nuance-t-il. En 2013, produire une pièce de 1 cent au Canada coûtait une fois et demie sa valeur. Les cents noirs s'accumulaient souvent dans les tirelires et les tiroirs, engendrant des pertes d'au moins 150 millions de dollars par an pour l'économie canadienne, évaluait alors Desjardins. Des pièces de collection. Source Monnaie royale canadienne. Les pièces de 1 cent étant de plus en plus rares, elles peuvent valoir un joli montant. En voici certaines qui ont une valeur particulière. Année 1920. Les pièces de 1 cent de cette décennie sont généralement difficiles à dénicher. mais celles émises de 1922 à 1926 sont des articles de collection hautement prisés. 1936, seules quelques pièces marquées d'un point ont été frappées, faisant de celles-ci des pièces rarissimes. 1953 à 1955, il existe deux versions du portrait lauré de la reine Élisabeth II. L'une présente des plis sur l'épaule de sa robe, l'autre pas. Selon l'année d'émission et la version, vous pourriez détenir un article de collection très recherché. 2006. Il existe plusieurs versions du sous-noir pour cette année. Celle sans la lettre P et sans logo est extrêmement rare. C'était « Disparition de la scène noire ». Avantageux ou pas pour le consommateur. Un texte de Lila Dussault paru le 18 juillet 2026 dans la presse.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 29 août. En 1957, adoption du Civil Rights Act de 1957. Le Sénat américain donne son approbation finale au Civil Rights Act de 1957, la première loi fédérale sur les droits civiques adoptée depuis la période de la Reconstruction. Le texte, bien qu'affaibli par des compromis politiques, marque une étape symbolique importante dans la lutte pour l'égalité raciale aux États-Unis. Il fait notamment suite au célèbre filibuster du sénateur Storm Thurmond, qui n'était pas parvenu à bloquer son adoption. Cette loi ouvrira la voie à des législations plus ambitieuses au cours de la décennie suivante. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 29 août.
Les musulmans de Winnipeg ébranlés par une présumée attaque haineuse contre une mosquée. Un texte de Océane Kouassi et Gavin Boutrois, paru le 30 juillet 2026 sur le site de Radio-Canada. Des leaders musulmans de Winnipeg affirment être profondément ébranlés par une présumée attaque haineuse contre le centre islamique Rama, survenue mercredi soir. La police enquête sur du vandalisme à la mosquée et sur de possibles coups de feu tirés en direction de l'établissement. Des représentants des musulmans à Winnipeg ont indiqué, lors d'une conférence de presse jeudi soir, que deux personnes en voiture ont tiré sur la mosquée située sur la rue Watt. Plus tard ce soir-là, deux personnes à pied auraient vandalisé les murs de la mosquée et cassé des fenêtres. Le Conseil national des musulmans canadiens affirme dans un communiqué que des agresseurs ont tiré sur l'établissement alors que des personnes s'y trouvaient et que l'incident a été capturé par une caméra de vidéosurveillance. Personne n'a été blessé dans ces incidents. Dans un communiqué de presse, la police confirme qu'elle enquête sur l'incident et indique que des agents de police ont constaté, vers 23h30 mercredi, que des vitres de la mosquée avaient été fraîchement brisées. Un sentiment de sécurité perdu. C'est sous le coup de l'émotion que l'imam et directeur du centre islamique Rama, Faisal Adem, s'est exprimé sur l'incident de la veille. Citation : La paix et le sentiment de sécurité dont jouissaient autrefois nos membres ont été profondément ébranlés par cet incident. Fin de citation, a-t-il déclaré. Il presse les autorités d'établir un plan d'action concret et de ne pas traiter cet incident comme un cas isolé, mais plutôt un incident inscrit dans une série d'autres gestes ciblant les musulmans. De son côté, Sadaf Ahmed, responsable des affaires gouvernementales et des politiques publiques au Conseil national des musulmans canadiens, parle d'une tendance inquiétante. Citation : Nous exhortons le Premier ministre Mark Carney à charger le Conseil consultatif, nouvellement créé, d'élaborer une stratégie nationale révisée de lutte contre l'islamophobie. Fin de citation, indique Sadaf Ahmed. Le Premier ministre du Canada, Mark Carney, a commenté l'incident dans la soirée de jeudi. Dans une publication sur son compte Facebook, Le premier ministre canadien a condamné l'acte et s'est dit bouleversé d'apprendre la nouvelle. Citation : Les forces de l'ordre ont tout mon soutien dans leurs efforts pour traduire les responsables en justice. Fin de citation, a-t-il souligné dans sa publication. Des blessures encore fraîches. Les leaders musulmans qui ont pris la parole jeudi soir ont souligné d'autres incidents récents à Winnipeg, dont l'un où les fenêtres du Habibi's Café sur l'avenue Portage ont été fracassées. Quelques jours plus tard, une croix gammée a été peinte sur les murs du centre communautaire et mosquée Abu Bakr al-Siddiq. Fatima Abdallah, membre du Conseil national des musulmans canadiens, a notamment évoqué l'attaque de la mosquée de Québec où 6 fidèles ont perdu la vie. La jeune femme estime que la route est encore semée d'embûches malgré les quelques progrès. Citation : Bien sûr, nous saluons les mesures positives qui ont été prises à tous les niveaux du gouvernement, mais il y a cette recrudescence de l'islamophobie que nous avons constatée au cours des derniers mois en particulier. Fin de citation, soutient-elle. La police de Winnipeg a indiqué qu'elle comptait renforcer les patrouilles et la présence policière au centre islamique, ainsi qu'à l'intérieur et aux abords des autres mosquées du quartier. Les dégâts causés à la mosquée sont estimés à plus de 3 000 $. C'était les musulmans de Winnipeg ébranlés après une présumée attaque haineuse contre une mosquée. Un texte de Océane Kouassi et Gavin Boutrois, paru le 30 juillet 2026 sur le site de Radio-Canada.
La caféine, de l'énergie en canette, un texte de la rédaction paru le 20 août 2024 dans Québec Science. La caféine, présente dans les boissons énergisantes et d'autres aliments, est un puissant stimulant. Elle agit de deux façons dans le cerveau et augmente son acuité, mais en abuser peut entraîner des problèmes. On a l'impression que ça réveille ou motive. La caféine contenue dans ces boissons est un stimulant qui augmente la concentration et la vigilance. Cela dit, elle ne fournit pas d'énergie. Si les boissons sont énergisantes, c'est parce qu'elles sont bourrées de sucre. Mais comment la caféine agit-elle dans notre corps pour faire cet effet-là? La caféine est une substance naturelle produite par plusieurs plantes, notamment le café, le thé, le cacao et le guarana. Utilisée depuis des siècles pour ses effets stimulants, elle est aujourd'hui omniprésente dans les boissons énergisantes. Elle agit principalement en bloquant les récepteurs de l'adénosine à la surface des cellules du cerveau. L'adénosine est une molécule qui favorise la relaxation et le sommeil en se liant à ces récepteurs. Lorsque la caféine s'y attache, elle les encombre et empêche l'adénosine de faire son travail, ce qui nous garde éveillés et alertes. En bloquant l'adénosine, la caféine entraîne également une libération accrue de neurotransmetteurs excitateurs dans ton cerveau, tels que la dopamine. Ces substances augmentent l'activité cérébrale, améliorant ainsi la vigilance, l'attention et la concentration. La dopamine, en particulier, entraîne une sensation de bien-être, ce qui explique pourquoi la caféine peut créer une dépendance chez certaines personnes. En plus, la caféine stimule également le cortex cérébral, la partie de notre cerveau responsable des fonctions cognitives comme la pensée et la prise de décision. Cela peut améliorer temporairement la mémoire et le temps de réaction. De plus, la caféine provoque la libération d'adrénaline, une hormone normalement impliquée dans les situations d'urgence. Cela augmente la fréquence cardiaque, la pression artérielle et le niveau de glucose dans le sang, donnant un coup de fouet énergétique. Bien que la caféine aide à rester réveillé et à améliorer les performances, en consommer en excès peut entraîner des effets secondaires tels que l'anxiété, l'insomnie et une augmentation de la fréquence cardiaque. Chez les adolescents, il est particulièrement important de surveiller la consommation de caféine, car le cerveau en développement est plus sensible aux effets de cette molécule. C'était La caféine de l'énergie en canette, un texte de la rédaction paru le 20 août 2024 dans Québec Science.
Éphéméride. un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 30 août. En 1967, confirmation de Thurgood Marshall à la Cour suprême. Le Sénat américain confirme la nomination de Thurgood Marshall en tant que juge à la Cour suprême des États-Unis. Il devient ainsi le premier Afro-Américain à siéger à la plus haute instance judiciaire du pays. Ancien avocat des droits civiques, il avait notamment plaidé avec succès l'affaire Brown contre Board of Education. Sa nomination marque une étape symbolique majeure dans l'histoire des droits civiques américains. C'était « Éphéméride, un regard sur l'histoire ». C'est arrivé un 30 août.
Le mystère derrière la Madeleine de Proust, enfin expliqué. Un texte de Pauline Gravel paru le 21 juillet 2026 dans Le Devoir. Pour Marcel Proust, le simple arôme d'une madeleine trempée dans une infusion de thé faisait ressurgir les souvenirs heureux de son enfance alors qu'une tante lui servait ce petit goûter réconfortant les dimanches matins. Des neuroscientifiques français se sont appliqués à élucider les réminiscences très particulières induites par ces expériences olfactives vécues dans l'enfance que l'écrivain décrit méticuleusement dans son roman « Du côté de chez Swann », premier volume d'À la recherche du temps perdu. Leurs observations ont été publiées le 14 juillet 2026 dans la revue PLOS Biologie. Dans un premier temps, l'équipe de scientifiques du Centre national de la recherche scientifique, CNRS, qui travaille au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, a demandé à des adultes de décrire leurs plus anciens souvenirs olfactifs. Les réponses qu'elle a recueillies ont indiqué que ce souvenir particulier remontant à leur petite enfance, soit avant l'âge de 10 ans, était associé à une odeur plaisante, mais aussi que le contexte dans lequel ils avaient été en contact avec celle-ci était très agréable, voire joyeux, et qu'en général, cette expérience s'était répétée plus de 5 fois au cours de leur enfance. Les chercheurs se sont ensuite inspirés de ces informations pour concevoir un modèle expérimental reproduisant fidèlement chez des souris ce vécu de l'enfance. Ils ont ainsi présenté à 5 reprises à de jeunes souris une odeur qu'elles aimaient, et ce dans une grande cage contenant des jeux, de la nourriture et des congénères. Ils ont confirmé que les souris appréciaient l'odeur et son contexte en mesurant le temps qu'elles passaient à proximité de l'odeur et en enregistrant les vocalises qu'elles émettent lorsqu'elles sont enjouées. Ils ont ensuite observé qu'à l'âge adulte, ces souris manifestaient une préférence très claire pour cette odeur. Elles passaient beaucoup plus de temps à explorer cette odeur particulière que d'autres qui leur étaient inconnues. Et elles ne s'en désintéressaient pas, même quand on la leur présentait à plusieurs reprises, alors qu'elles finissaient par négliger les autres odeurs après s'y être accoutumées. Les souris démontraient une nette préférence pour l'odeur de l'enfance, mais à la condition que celle-ci leur eût été présentée dans un environnement très positif, souligne en entrevue la chercheuse Nathalie Manderon, qui a dirigé l'étude. Si les souris avaient été exposées à l'odeur dans une cage standard, elles n'en avaient gardé aucun souvenir à l'âge adulte. Comme chez l'humain, l'association avec un contexte plaisant est vraiment importante. De profonds souvenirs. Les scientifiques ont ensuite cherché à identifier les réseaux cérébraux impliqués dans cette mémoire olfactive de l'enfance qui perdure longtemps et suscite souvent une grande nostalgie plus tard dans la vie. Ils ont ainsi mis en évidence le rôle central de certains neurones du bulbe olfactif, cette petite structure du cerveau qui reçoit l'information olfactive captée par les récepteurs du nez. On a montré que ces neurones portaient la mémoire de l'odeur perçue dans l'enfance, puisque si on inhibait leur activité, les souris avaient oublié l'odeur à l'âge adulte. Ces neurones sont dotés d'une grande plasticité et ils apparaissent après la naissance de la souris, note Madame Manderon. La plupart des neurones du cerveau sont présents avant la naissance. Le cerveau est entièrement formé avant la naissance, sauf ces neurones-là qui apparaissent le jour de la naissance et encore un peu durant la petite enfance. Même chez l'homme, ces neurones olfactifs particuliers continuent à apparaître pendant la petite enfance, fait remarquer la neuroscientifique. Grâce à des vecteurs viraux qui reconnaissent spécifiquement ces neurones dits néonataux, les chercheurs ont pu les repérer au fur et à mesure de leur apparition dans le bulbe olfactif. À l'aide de marqueurs protéiques, ils ont également pu voir que ces neurones s'activaient uniquement lorsque les souris étaient exposées à l'odeur en question. Seule l'activation de ces neurones induit la production de la protéine de ce marqueur. Souvenirs, récompenses et nostalgie. Les chercheurs ont également remarqué que chez les souris jeunes adultes, le circuit de la récompense participait lui aussi à la réminiscence des souvenirs olfactifs datant de la petite enfance, car il s'activait lorsqu'on présentait cette odeur de l'enfance aux souris adultes. Lorsqu'ils ont regardé les souris plus âgées, ils se sont aperçus que celles-ci ne se souvenaient de l'odeur que si elles y avaient été réexposées quelquefois au cours de leur vie adulte. Sans une telle réexposition, elles l'avaient oubliée et ne présentaient donc plus de préférence pour cet effluve particulier. À cet âge plus avancé, la participation des neurones néonataux du bulbe olfactif et du circuit de la récompense s'était estompée au profit de celle du circuit des émotions, du système limbique. Le souvenir de l'odeur de l'enfance était bien maintenu, mais plutôt grâce à l'intervention du système limbique, ce qui expliquerait pourquoi les odeurs de l'enfance, quand on est plus âgé, sont aussi très nostalgiques, très émotionnellement positives, note Madame Manderon. Au niveau anatomique, le système olfactif est très étroitement connecté au système de la récompense et au système limbique. Mais la connectivité avec le circuit de la récompense est plus grande chez le jeune adulte, tandis qu'avec l'âge, c'est plutôt la connectivité avec le système limbique qui s'accroît, précise la chercheuse qui souligne le travail de son doctorant Jules Dejoux dans cette étude sur ce qu'ils appellent l'effet Proust. C'était le mystère derrière la Madeleine de Proust, enfin expliqué. Un texte de Pauline Gravel, paru le 21 juillet 2026 dans Le Devoir.